Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'Afrique des îles, l'île de Mozambique. L'Afrique, ça n'est pas seulement le grand continent que nous connaissons, ce sont aussi des îles. Des îles très nombreuses, des îles isolées, des archipels, dont certains d'ailleurs sont devenus des États à part entière. Des îles qui, replacées dans l'histoire, ont joué un rôle pas du tout négligeable, non seulement dans l'histoire de l'Afrique, bien sûr, mais aussi dans l'histoire des économies mondes et peut-être simplement dans l'histoire du monde. Nous allons aujourd'hui dans l'une de ces îles, l'île de Mozambique, avec Jordan Bertrand. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Vous êtes historienne de formation, vous avez vécu longtemps, plusieurs années, je pense 4 ou 5 ans au Mozambique.
Oui, tout à fait.
Et vous avez publié un livre très original, dans une collection également très originale, Voyage en poche. Le livre s'appelle, cette petite île s'appelle Mozambique. Évidemment, il y a un problème dans la mesure où le nom de l'île, c'est aussi le nom du pays, nous y reviendrons tout à l'heure. Le livre est écrit d'une manière tout à fait personnelle. Vous racontez vos rencontres, votre arrivée, les sensations que vous avez ressenties, l'histoire que vous avez découverte aussi, plutôt les histoires que vous avez découvertes, les individus, des histoires plus collectives. Et tout cela donne une entrée très personnelle et très singulière dans cette grande île dont, au fond, on parle très très peu à l'extérieur. J'imagine d'ailleurs que beaucoup de gens, quand on dit Mozambique, pensent au pays et n'imaginent pas qu'à l'intérieur du pays, il y a une île qui s'appelle Mozambique. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît l'histoire du peuplement de cette île? Disons, avant la globalisation de l'histoire dans laquelle elle va entrer très rapidement.
Oui, en fait, c'est assez simple. Cette île était une petite île déserte. Alors, c'est une île qui est de l'océan Indien, évidemment, au large du Mozambique, mais finalement très près du rivage. Elle est à 3 km des côtes dans le nord du pays. Elle est elle-même toute petite. Elle fait 3 km de long sur 500 mètres de large. Et c'est ça qui est peut-être le plus étonnant. C'est comment un petit territoire, si petit, a pu concentrer autant d'histoire globale, justement. Et c'est ça qui m'a fascinée. Donc, au départ, oui, voilà, une île déserte parce que, en fait, tout simplement, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'accès à l'eau sur cette île. Donc, les Africains qui se trouvaient sur le continent n'avaient pas vraiment d'intérêt à s'installer dessus. Mais ils s'en servaient quand même toutefois pour comme lieu de repli, de refuge, quand il y avait des guerres intestines sur la terre ferme.
À l'intérieur, sur le continent, oui.
Voilà, donc c'était vraiment la zone où on pouvait aller en pirogue pour se réfugier, pour se cacher quelque temps, le temps que ça s'appelle sur le continent. Et d'ailleurs, le nom toujours utilisé par le peuple Makua, qui est le peuple de cette région au Mozambique, le nom de cette île local est Umuipiti, et Umuipiti, ça veut dire la cachette.
Oui, donc il y a une histoire locale, évidemment, histoire de repli. Les îles, d'ailleurs, ont servi de cela dans d'autres parties du monde. Alors, l'histoire, si on peut dire, commence quand? Avec cette ouverture dans le grand espace de l'océan Indien.
Oui, tout à fait. C'est vrai que les Africains n'utilisaient pas cette île en permanence. En revanche, d'autres, notamment des navigateurs arabes, se sont rendus compte que cela pouvait être un lieu de passage très intéressant quand on était commerçant à cette époque. Donc là, à partir du 8e, 9e siècle, en gros. Voilà, des commerçants arabes qui sont descendus le long de la côte orientale de l'Afrique et qui ont fondé différents comptoirs, ont trouvé également en l'île de Mozambique une place intéressante pour s'installer, pour préparer les bateaux, pour stocker des marchandises. Et progressivement, justement, la liaison s'est faite avec les Africains. L'islam s'est imposé grâce au commerce de façon pacifique. Une sorte d'élite commerciale afro-arabe s'est créée avec des mariages, des alliances. Et donc, en gros, du 9e siècle jusqu'au 15e siècle, l'île de Mozambique a vraiment été dominé par cette élite commerçante de l'océan Indien, venue d'abord des commerçants arabes.
De quelle partie du monde arabe ça se ressentira dans l'orientation de l'islam dans l'île jusqu'aujourd'hui?
Oui, alors c'est plutôt la péninsule arabique, du côté du Yémen, de la péninsule, Oman. Donc c'est de toute cette partie-là que sont venus les commerçants.
Et ce sont plutôt aujourd'hui des confréries soufis.
Oui, alors aujourd'hui ce sont des confréries soufis. C'est vrai qu'en fait l'île de Mozambique a été un lieu où aussi toutes les diverses influences de l'islam sont passées. L'influence des confréries, elle est arrivée un peu plus tardivement, notamment via les Comores au 19e siècle. Donc il y avait déjà un islam installé, sunnite, et puis progressivement les confréries au 19e siècle se sont aussi implantées par-dessus cet islam déjà bien créolisé, si je peux dire, avec les religions africaines.
Vous avez fait évidemment beaucoup de rencontres et l'une des figures qui émerge de ce livre est Hafiz, qui lui-même est lié justement à cette longue lignée de musulmans.
C'est ça qui était intéressant aussi, c'était de comprendre comment, en fait, l'île de Mozambique, justement, a été une tête de pont pour l'arrivée des confréries musulmanes soufis au Mozambique. Et c'est à partir de l'île de Mozambique qu'elles ont essaimé dans le reste du pays. Alors, elles ne sont pas dominantes au Mozambique, mais elles sont dominantes, en revanche, sur cette île. Et c'est là que se trouve le siège de toutes les confréries musulmanes du Mozambique. Et ça, c'est vraiment les échanges avec Zanzibar et avec les Comores qui ont fait que elles se sont implantées durablement, puisqu'elles ont trouvé aussi, elles ont retrouvé un petit peu cet espace swahili qui était déjà présent aux Comores et sur la côte tanzanienne ou plus au nord. Donc voilà, j'ai rencontré ce jeune Hafiz, qui est un jeune chef confrérique qui a reçu de son père notamment, et puis d'autres dignitaires musulmans locaux, toute cette tradition en fait de confrérie soufie, où finalement, alors il y a plusieurs choses. D'une part, il y a tout un syncrétisme qui s'est créé aussi avec des traditions locales makwa, et puis également un mode d'organisation assez spécifique où notamment les femmes ont aussi beaucoup de poids et un rôle important au sein de ces confréries, parce que ça s'est aussi greffé sur une société au départ makwa matriarcale. Donc voilà, un espace en tout cas de gestion de la communauté qui est encore très très important à l'île de Mozambique, même si, comme dans d'autres endroits en Afrique, elles doivent faire face aussi au coup de butoir, si j'ose dire, d'un islam plus radical. Et les confréries sont souvent mises en cause, enfin un petit peu menacées dans leur existence. Donc ce jeune chef confrérique est une figure un petit peu de cette résistance.
Alors justement, je lis juste un passage de ce que dit Hafiz. Nous sommes des Africains musulmans, nous ne sommes pas des Arabes. Nous devons respecter notre propre culture tout en suivant l'islam. Je trouve que nous manquons de fierté et de patriotisme. Nous avons besoin, en quelque sorte, d'un patriotisme africain. Pour moi, le prophète Mahomet a fait le voyage à la Mecque, car c'était son pays. Pour nous, le voyage doit se faire aussi en direction de notre terre. C'est assez frappant comme position. Oui, oui.
Oui, mais ça correspond vraiment à ce qui est ressenti, en tout cas dans cette communauté. Alors, Hafiz, c'est pas forcément un lettré, mais c'est quelqu'un qui vit sa religion vraiment de façon très forte localement, parce que elle est aussi une façon de gérer sa communauté, et elle a toujours été très, voilà, dans l'île de Mozambique, ça a été une sorte de régulation sociale très 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 forte et très importante. Et quand il dit ça, c'est aussi pour frapper les esprits, mais c'est aussi justement pour contrer, il est très fier de l'héritage de l'île de Mozambique, qui est un islam très pacifique, très tolérant, et c'est un petit peu en soi qu'il défend cette position-là par rapport à des positions plus parfois moins tolérantes.
Jordan Bertrand, je pense aux îles voisines, notamment à Zanzibar. Est-ce que l'esclavage y a pris à l'île de Mozambique une visibilité et une importance, disons, comparable éventuellement à ce qu'on a pu voir plus au nord?
Oui, absolument. Même, je dirais, la période de l'esclavage à l'île de Mozambique a même certainement commencé peut-être plutôt en tout cas du côté des Européens, du côté des Arabes, oui, certainement, c'est très comparable à ce qui s'est passé à Zanzibar. Et du côté des Européens, les Portugais arrivant à partir de la fin du 15e siècle, dès le 16e siècle, et puis surtout ensuite au 17e, 18e siècle, l'île de Mozambique va être un carrefour de trafic d'esclaves très très important. Les esclaves, en fait, qui venaient de l'intérieur, étaient entreposés sur la côte en face de l'île de Mozambique, passés par l'île de Mozambique ensuite, avant d'être embarqués dans les bateaux. Donc on estime à entre, je crois, croit entre 600 et 800 000 personnes qui seraient passées par l'île de Mozambique pour être mises en esclavage.
Avec Jordan Bertrand, nous sommes à la découverte de l'île de Mozambique. Évidemment, il y a les Portugais, bien sûr. Les Portugais, et pas les moindres, puisque Vasco de Gama a été le premier Portugais, et le premier Européen d'ailleurs, à atterrir sur les côtes de l'île en 1498. C'est de là que vient le nom Mozambique, d'ailleurs, à partir, je dirais, de, comment dire, d'une mauvaise compréhension de ce que les Portugais ont entendu.
Oui, ou en tout cas d'une rencontre un petit peu, comment dire, qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Vasco de Gama, qui est donc le premier à remonter le canal du Mozambique, hein, à faire le tour de l'Afrique pour ouvrir la route des Indes, quand il arrive à l'île de Mozambique, puisqu'il cherche des endroits pour pouvoir un petit peu mouiller et faire reposer son équipage, en arrivant à l'île de Mozambique, il tombe donc sur cette élite arabo-africaine qui est installée là depuis de longs siècles et dont le sultan local s'appelle Moussa. Et au départ, la rencontre va être plutôt bienveillante de part et d'autre, mais très vite, justement, alors qu'on est en pleine période de rivalité commerciale sur les mers du monde, hein, on est vraiment déjà dans la globalisation, alors qu'il y a cette rivalité très forte, au départ, les musulmans de l'île de Mozambique pensent que ce sont des Turcs, et puis très vite, quand ils se rendent compte que c'est un équipage envoyé par un roi chrétien, ça se passe beaucoup plus mal, et Vasco de Gama manque d'être pris au piège, et finalement, il arrive à s'échapper grâce à la supériorité de ses canons. Donc, dans la relation de voyage de Vasco de Gama, enfin en tout cas ce qu'on en a gardé via les récits des pilotes ou des gens de son équipage qui ont écrit, finalement quand le retour se fera à Lisbonne, le nom qui restera pour cette île, c'est l'île de Moussa le Bey, ou Moussa Elbik en turc, et donc Moussa Elbik donnera Mozambique.
Mozambique, oui. Et d'ailleurs, l'île de Mozambique va connaître d'autres Portugais et pas des moindres, en particulier le plus grand poète portugais probablement, Luís de Camões, dont l'aventure est assez étonnante. Comment il atterrit dans cette île et qu'est-ce qu'il y fait d'ailleurs? Est-ce que les Lusiades de son fameux poème, les Lusiades, ont été composées, terminées dans cette île? Quelle a été exactement la raison, le motif de sa présence et la durée de sa présence dans cette île?
Justement, une fois que Vasco de Gama va ouvrir la route des Indes, en fait, le Portugal va vraiment lancer énormément de bateaux sur cette route des épices, plusieurs dizaines de bateaux par an, qui donc s'arrêtent à l'île de Mozambique et puis poursuivent leur course vers l'Inde. Et Luís de Camões, c'est un poète qui officie à la cour du roi au Portugal et qui ensuite va tomber un peu en disgrâce en se battant avec un gentilhomme à la cour du roi. Et donc pour le punir, on va l'envoyer 2 ans comme simple soldat en Inde, puisque les Portugais ont commencé à installer une colonie à Goa, c'est la capitale de l'Empire portugais. Et donc en ce 17e siècle portugais en Inde, Luís de Camões va de survivre comme simple soldat en Inde, ce ne sera pas évident. Il partira ensuite, il voyagera vraiment en Asie très très loin jusqu'en Chine. Et puis au moment où il décide de rentrer au Portugal après plus de 15 années passées en Asie, il va avoir beaucoup de mal à trouver un bateau qui rentre au Portugal parce que les bateaux sont pleins d'épices et quand on veut essayer de trouver une place sur un bateau, il faut payer fort cher et il se trouve qu'il reste un soldat démuni. Donc on lui propose de le déposer à l'île de Mozambique et on lui dit là tu verras, il y a d'autres bateaux qui passent. Tu parviendras bien sûr à rentrer à Lisbonne. Et puis finalement, l'escale va se prolonger. Il va rester 2 ans à l'île de Mozambique, en plein XVIIe siècle. Hein. L'île ne devait pas être très... Il ne devait pas y avoir grand-chose à faire. Et donc justement, il en profite, c'est ce que dit l'histoire ou la légende, il en profite pour corriger son œuvre magistrale, les Lusiades, dans lesquelles d'ailleurs justement il rendra hommage à l'île de Mozambique, puisque les Lusiades racontent notamment le périple de Vasco de Gama, et le titre de mon ouvrage, justement, cette petite île s'appelle Mozambique, est tiré d'un vers des Lusiades.
Vous avez constaté sur place aussi qu'il y a un très très grand métissage, tous les types y sont, les Africains du continent, les Arabes, les Indiens, et bien sûr des mélanges absolument extraordinaires. Les Indiens, l'hindouisme est aussi une composante apparemment importante de l'île du Mozambique.
Oui, alors je dirais peut-être été, parce que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. La communauté indienne a pratiquement disparu de l'île de Mozambique. Mais c'est vrai que pour résumer, on peut dire que cette petite île, finalement, elle a été composée de quatre continents ou de quatre grandes régions du monde, hein, l'Afrique bien sûr, la péninsule arabique, on en a parlé, l'Europe avec les Portugais et puis l'Inde, parce que justement une fois que la route des Indes va être ouverte par les Portugais, très rapidement, dès le XVIIe siècle, les Indiens vont s'installer à l'île de Mozambique. Alors il y aura des Hindous effectivement, des chrétiens, des Indiens qui ont été christianisés par les Portugais, et puis un peu plus tard, plus tardivement au XIXe siècle, des Indiens musulmans du Gujarat. Donc la présence indienne, effectivement, va être importante tout au long de l'histoire de l'île de Mozambique, en gros jusqu'au milieu du XXe siècle, et subsiste au cœur de l'île de Mozambique un temple hindou qui est encore utilisé de temps en temps pour certaines cérémonies. Et voilà, et donc tout ça a construit cette île, a édifié cette île, à la fois dans ses monuments, dans sa gastronomie, dans ses coutumes, et puis évidemment dans les métissages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la population de l'île du Mozambique est essentiellement métissée, même si c'est vrai que les grandes familles métissées, qui étaient un petit peu le symbole de cette île, sont parties maintenant plutôt à Maputo ou dans les grandes villes du Mozambique, parce que voilà, l'île de Mozambique a été capitale pendant des siècles jusqu'en 1898, et une fois qu'elle a été déchue de son statut de capitale, évidemment, les grandes familles ont suivi un peu le mouvement et progressivement, l'île a été un petit peu délaissée.
Et justement, par rapport à cela et par rapport aux évolutions récentes, est-ce que, non pas dans la guerre de libération, mais dans la guerre civile qui a succédé à l'indépendance, est-ce que l'île a été affectée jusqu'à quel point ?
Alors, l'île a été affectée pas forcément par les combats, justement, hein, donc la guerre civile au Mozambique, c'est en gros la fin des années 70 jusqu'en 1992, hein, donc ça a été une longue guerre assez terrible. Et alors l'île de Mozambique, avait l'avantage d'être protégée parce qu'elle était une île. Il y a bien un pont qui relie le continent à l'île, un pont qui avait été construit par les Portugais dans les années 60, mais évidemment le pont empêchait toute embuscade, n'importe quel ennemi qui voulait pénétrer sur l'île de Mozambique était tout de suite repéré. Donc finalement, l'île de Mozambique a servi de refuge pour énormément de gens des contrées environnantes. Et c'est peut-être ça qui a fait subir aussi beaucoup de dommages là plus matériels à l'île. L'île a une architecture assez étonnante, hein, une immense forteresse portugaise qui date du XVIIe siècle, et puis énormément de vestiges coloniaux, églises, mosquées, mosquées pas coloniales, mais de l'époque de la présence arabe, le temple hindou, on en a parlé. Donc tous ces vestiges historiques ont beaucoup souffert de la présence de réfugiés qui, évidemment, ont essayé de trouver un toit pour se protéger pendant cette période difficile. C'est ça qui a fait en sorte que l'île a été un petit peu négligée, abandonnée. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991, oui. Voilà, justement pour essayer de sauvegarder, hein, ce qui fait la particularité de cette île, c'est-à-dire comment, finalement, des cultures si diverses se sont mélangées et se sont retrouvées sur un espace de terre si petit, qui aujourd'hui n'a plus aucune, je dirais, plus aucune valeur stratégique, mais qui a été au fil des siècles totalement convoitée par les grandes puissances maritimes. Les Européens, il y a eu les Portugais, mais les Hollandais ont fait le siège de l'île de Mozambique pendant des mois pour essayer de déloger les Portugais. Les Arabes, on l'a vu, étaient très présents. Les Sakalaves du nord de Madagascar ont tenté des incursions aussi sur l'île de Mozambique. Donc c'est ça qui est assez étonnant quand on y va, c'est de se dire que voilà, il faut beaucoup de temps pour y aller. On prend l'avion à Maputo, on a 2 heures d'avion, ensuite on arrive à Nampula, la capitale de la province, ensuite c'est plus de 2 heures de route. Et quand on arrive enfin, on voit cette île au bout de ce pont. Et là, on se dit, ah, c'est cette île toute petite qui a suscité tellement de rivalités et de convoitises au fil de l'histoire. Et ça, c'est assez impressionnant.
Merci à vous, Jordan Bertrand. Je rappelle le titre de votre livre. Cette petite île s'appelle le Mozambique, citation que vous tirez des Lusiades de Luís de Camões, le grand poète portugais. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.